David Dacium au nom de CKUT. Nous sommes présents à la librairie L'Écume des Jours, en Outremont, 125 rue Saint-Viateur. C'est le 31 août 2005 et nous assistons au lancement du tout dernier livre de Normand Baillargeon, Éducation et Liberté, paru chez Lux Éditeur. Normand Baillargeon enseigne les fondements de l'éducation et la philosophie à l'UQAM. La présentation que nous allons écouter se fera sous la forme d'un entretien de Francis Dupuis-Déry, auteur, politologue et enseignant, avec l'auteur Normand Baillargeon. Mais d'abord quelques mots sur l'ouvrage. C'est une anthologie dont c'est le premier tome, paru dans la collection Instinct de liberté. La problématique de l'éducation a occupé une place prépondérante dans les réflexions et les pratiques du mouvement anarchiste, mais sitôt que l'on sort des milieux militants, ce vaste et riche héritage demeure en général très méconnu. Une des ambitions de la présente anthologie, qui réunit des textes importants de la tradition anarchiste en éducation et dont certaines étaient devenues difficilement accessibles, et d'inviter à découvrir cette tradition de pensée sur l'éducation, trop injustement oubliée. L'ouvrage comporte deux parties, visions anarchistes de l'éducation et expériences anarchistes en éducation. Plus qu'une simple critique du système d'éducation de l'époque et de proposition de ce vers quoi le modèle éducatif devrait tendre, nous trouvons ici des expériences tangibles d'éducation libertaire qui ne peuvent qu'alimenter le débat actuel et inspirer de nouvelles façons de faire. Mais sans plus tarder, écoutons l'entretien.
Ok, ben merci d'être ici. La façon dont on va procéder, ça va être plutôt qu'être une conférence traditionnelle. Je vais poser une série de questions à Normand, ça va être un peu comme un entretien, peut-être pendant une vingtaine de minutes, 20 minutes, 25 minutes, quelque chose comme ça. Après, évidemment, vous aurez la possibilité aussi de poser des questions pendant un petit bout de temps, puis après, on pourra continuer la discussion de façon informelle. Je pense qu'il y a un peu de vin, d'eau et des petites bouchées. Est-ce qu'on parle assez fort? Est-ce que vous entendez? Vous entendez rien, donc vous répondez pas ou... Donc, Normand Baillargeon, comme on vient de le dire, a publié plusieurs livres, dont dernièrement le petit cours d'autodéfense intellectuelle. Il vous dira dans quelques minutes s'il considère que le livre qu'il vient présenter aujourd'hui est un peu dans la continuité ou dans le même esprit. Il avait aussi publié il y a quelques années un livre qui est en fait une introduction, une présentation, une synthèse de l'anarchisme, qui est aussi publié chez Lux, L'ordre moins le pouvoir, histoire et actualité de l'anarchisme. Et aujourd'hui, il vient parler de Éducation et liberté, qui est en fait une anthologie de textes anarchistes, de pédagogues anarchistes ou de militants anarchistes qui ont écrit sur l'éducation, sur la pédagogie, qui dans certains cas aussi ont mené des expériences pédagogiques. On a ici en fait aujourd'hui le premier tome, le premier volume qui va de 1793 à 1918, qui est déjà assez volumineux. En principe, Normand Baillargeon travaille sur un deuxième tome qui devrait nous mener jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le livre, vous le verrez, si vous le consultez, est assez bien fait. C'est-à-dire que Normand fait une présentation d'à peu près 75 pages des théories générales de l'anarchisme en éducation et des différents auteurs qu'on va pouvoir lire dans le livre. Et puis après, c'est des extraits. En fait, c'est une anthologie, donc c'est des extraits de textes de différents auteurs. Certains qui sont habitués à l'anarchisme reconnaîtront des noms assez connus comme Bakounine, Kropotkin et d'autres personnes qui sont moins connues mais tout aussi intéressantes. Ce qui est intéressant évidemment avec ce livre, c'est que ça nous rappelle, je dirais, d'une certaine manière, un des éléments positifs de l'anarchisme. Il y en a plusieurs. On sait que l'anarchisme est souvent réduit à une sorte de caricature. C'est le lanceur de bombes. Dernièrement, dans la presse, au mois de juillet, alors qu'il y avait le sommet du G8 en Écosse, en Angleterre, il y avait des manifestations altermondialistes et il y a eu aussi des attentats à Londres, comme tout le monde le sait. Et donc, vous aviez, par exemple, un universitaire, un brillant directeur de département de sciences politiques anglais qui avait signé un article dans la presse où il faisait une comparaison entre les anarchistes et Al-Qaïda en disant que c'était le même combat, la même logique. Donc, c'est intéressant avec des livres comme on a aujourd'hui à discuter, c'est que ça nous rappelle évidemment que l'anarchisme, c'est pas du tout ça. C'est aussi beaucoup de projets positifs qui ont eu une influence, soit parce qu'ils ont été repris, soit parce qu'ils ont été copiés, mais soit aussi parce qu'ils faisaient sens dans différents domaines, dont, par exemple, l'émancipation de la femme, libération sexuelle, contrôle des naissances, le pacifisme, l'antimilitarisme. La plupart des militants contre la conscription, par exemple, obligatoire dans les pays où il y avait de la conscription, c'était principalement des anarchistes qui ont mené ces luttes, qui sont souvent allés en prison pour ça, en Belgique, par exemple. Le végétarisme, pour ceux qui considèrent que le végétarisme, c'est une avancée progressiste, les anarchistes l'ont souvent prôné. Et là, aujourd'hui, l'éducation. Donc, j'aimerais commencer en demandant, finalement, à Normand Baillargeon, justement, peut-être pour continuer cette démystification de l'anarchisme, qu'est-ce que lui-même entend, en fait, par anarchisme, mais pourquoi il se sent sympathique de cette idéologie ou de cette philosophie politique?
La question est tellement vaste que je me demande par où la prendre. Hein. L'anarchisme, d'abord, c'est un concept qui recouvre une grande variété de théories puis de pratiques politiques. Moi, si je vais la définir en un mot, je dirais c'est d'entretenir l'espoir rationnel d'un monde sans violence ou domination. Alors, voilà ce que j'entends, moi, par anarchiste. L'espoir rationnel d'un monde sans violence ou domination. Je pense que l'inscription historique de cette réalité-là s'est faite en Europe récemment, là, à la suite de la Révolution française. Et elle a pris un grand nombre de formes. Parmi toutes les formes que l'anarchisme a prises, il y en a eu où ce mouvement, où cette idée s'est incarnée dans des théories puis des réflexions sur l'éducation. Dans le livre que je viens de faire, c'est ce qui m'intéressait de montrer. Tu vois. Et la raison pour laquelle je voulais faire ça, c'est qu'il me semble que ces auteurs, ces pratiques, sont très, très méconnus. Alors, il y a une véritable occultation d'une partie importante, non seulement de la tradition anarchiste, mais aussi de la tradition pédagogique, d'une tradition pédagogique. C'est-à-dire de gens qui ont joué un rôle très important dans le développement des théories et des pratiques pédagogiques depuis le 19e siècle et qui ont été largement occultés. Alors, là, un peu de la même manière que une bonne part de ce qu'a été l'anarchisme, puis aussi des valeurs positives qu'a prôné l'anarchisme ont été occultées, puis on en a porter une caricature que tu rappelais tantôt. Mais de la même manière, en pédagogie, on a tendu à cacher, à occulter, en tout cas, à refuser de reconnaître un nombre important, encore une fois, de penseurs et de praticiens d'éducation. Alors, si on sort des milieux militants, ces gens-là sont à peu près complètement inconnus. Et on peut dire aussi que même dans les milieux militants, même des gens qui s'intéressent de près à l'anarchisme, souvent, ils découvrent ces gens-là, parce qu'ils ignoraient leur existence. Ils ne savent pas, par exemple, qu'un des plus importants pédagogues socialistes de tous les temps, puis probablement le plus grand pédagogue anarchiste, c'est quelqu'un qui s'appelle Paul Robin, qui a joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de l'éducation, dans l'histoire de la pédagogie. Et le but, donc, de ce livre-là, c'était de faire connaître ses auteurs, ses pensées et ses pratiques, parce que vous allez voir dans le livre qu'il y a des expériences pédagogiques qui sont menées à long terme, pendant des années, par des gens extrêmement sérieux, tu vois, qui cherchent et qui trouvent des choses. Et donc, je voulais ramener ça dans le débat public, parce qu'il me semble que la question de l'éducation reste aujourd'hui encore aussi cruciale qu'elle pouvait l'être à leur époque. Alors, ces gens-là vont penser l'éducation dans un contexte qui n'est pas exactement le nôtre, par définition, mais ils posent des problèmes avec lesquels on est encore pris. Et c'est intéressant d'aller voir leurs réponses, voilà.
Mais les anarchistes, généralement, les anarchistes sont par définition contre l'État ou très critiques de l'État. Et pourtant, j'ai l'impression que plusieurs personnes considèrent que, par exemple, l'éducation publique obligatoire, c'est une avancée progressiste, surtout dans le cas du Québec, en plus, où l'Église, par exemple, a joué un rôle très, très important dans l'éducation. Et quand, avec la Révolution tranquille, l'État prend le relais, on a l'impression que c'est une mesure progressiste. Donc, comment les...
Tout à fait. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus, puis c'est un point extrêmement important à voir très clairement, tu vois. Alors, effectivement, à la suite de la Révolution française, quand on entre dans le 19e siècle, la prise en charge par l'État de l'instruction ou de l'éducation, les deux mots vont être utilisés, apparaît dans les milieux progressistes comme une chose extrêmement bonne et progressiste, justement, et qu'il faut défendre, une avancée considérable. Mais il y a aussi des voix qui, dès le début, vont s'élever contre les dangers que présente, selon eux, une prise en charge par l'État de l'éducation. Et un des tout premiers à faire ça, le livre s'ouvre sur lui, ça va être Godwin. Godwin, qui est probablement le premier théoricien sur lequel on peut mettre l'étiquette anarchiste, tu vois. Là. Alors, William Godwin, lui, va tout de suite comprendre le type de danger que pose la prise en charge par l'État de l'éducation. Alors, l'éducation, dit-il, c'est un moyen tellement fort de façonner l'opinion des gens que si on rend à l'État la possibilité de travailler sur tous les gens, si on leur livre pieds et poings liés tous les enfants dès le moment où ils commencent à étudier, le danger pour la liberté est immense, tu vois. Ce qui fait que Stirner pose le problème comme ça, tu vois, et voit très bien ce type de danger-là. Son texte est court mais percutant. Et qu'est-ce qu'il fait à côté de ça, Stirner? Ben, il fait ce que beaucoup d'anarchistes vont faire, c'est-à-dire il cherche une solution face à ce problème-là. La solution pour lui, à cette époque-là, consiste à ouvrir des petites écoles à côté du système scolaire. Godwin va essayer ça, va essayer d'ouvrir ses écoles à lui, va essayer de lancer ses écoles. Ça marche pas très fort dans le cas de Godwin, mais sa réflexion reste là. Par la suite, face à la prise en charge qui se réalise effectivement au 19e siècle puis au 20e siècle au Québec de l'éducation par l'État, les anarchistes vont réagir à l'époque dont je parle là de toutes sortes de manières. Alors, certains d'entre eux vont ouvrir leurs écoles à part et vont les faire vivre. D'autres vont s'intégrer dans le système scolaire. C'est-à-dire, d'autres vont travailler à l'intérieur du système scolaire, vont essayer de saper le système scolaire de l'intérieur ou de se créer des espaces de liberté dans le système officiel en disant on va essayer de créer là la société de demain. C'est toujours le fameux rêve anarchiste, créer aujourd'hui, dans les conditions actuelles, la société de demain dont on rêve. Alors, ils vont... Robin, c'est le cas de Robin, si tu me permets. Comme quoi, ils sont pas dogmatiques. C'est important de voir ça. Ce sont des gens qui sont conscients de l'immense force d'inertie de la réalité extérieure qui pèse sur eux et qui s'efforcent d'inventer à travers ça, tout en restant toujours pleinement conscients du danger de la prise en charge par l'État de l'éducation. Ces gens-là vont soit ouvrir leurs propres écoles, soit créer des expériences pédagogiques à côté, soit, c'est le cas de Robin. L'histoire de Robin est assez jolie. Là, j'aurais peut-être pas les noms et les dates exactes, mais il reste que à un moment donné... Un monsieur assez riche, tu vois, qui était férocement anticlérical, laisse en héritage un immense bâtiment pour faire un orphelinat pour les enfants du coin, tu vois. Mais la condition expresse, c'est qu'il n'y ait pas de curé là-dedans, puis le moins d'État possible, tu vois. Alors, la personne qui est au ministère de l'Instruction en France à l'époque connaît Robin, sait que c'est un monsieur qui a écrit, puis qui est intéressé par l'éducation, puis qui a renoncé à sa carrière d'instituteur parce qu'il ne peut pas fonctionner dans le système habituel. Et il lui propose de prendre cet orphelinat-là, Saint-Puis, de faire là-bas un orphelinat pour les enfants et de pouvoir lancer ses propres expériences pédagogiques. Ça se fait à l'intérieur du système scolaire, ça se fait à l'intérieur du système officiel, mais c'est un espace de liberté qui a été créé, puis pendant très longtemps, une expérience majeure de pédagogie anarchiste va se réaliser là, tu vois. D'autres, je pourrais continuer longtemps là-dessus, mais par exemple, il y en a un célèbre, un immense aussi pédagogue libertaire qui s'appelle Francisco Ferrer. Il quitte l'Espagne parce que sa tête est mise à prix, ça va très mal, il s'en va en France, à Paris. Il donne des leçons d'espagnol pour survivre. Une de ses élèves, Madame Monnier, je crois, à qui il raconte sans arrêt ses rêves d'avoir une école et puis de lancer puis sa passion pour la pédagogie, va lui laisser un immense héritage avec lequel il va pouvoir retourner en Espagne et lancer le mouvement de l'école moderne avec une librairie. Il va publier des documents, il va avoir son école. Et cette expérience-là va se faire avec un financement privé obtenu par héritage. Ce qui veut dire que constamment, tu as la méfiance à l'endroit de l'implication de l'État en éducation. Et puis, fatalement, dans les faits concrets, les gens vont construire de toutes sortes de manières, des façons. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le dire. Ça, je disais tantôt, être anarchiste, c'est entretenir l'espoir raisonnable, rationnel d'une société sans domination ni violence. Eh bien, commençons dès aujourd'hui à créer les conditions de la société de demain dans l'horreur actuelle. C'est ce qu'ils ont essayé de faire.
Puis pour revenir vraiment à l'esprit de leur projet pédagogique, tu mentionnes un certain nombre de principes ou de concepts ou d'idéals. Peut-être tu peux développer un peu...
Tu peux les rappeler,
François? Oui, c'est ça, bien sûr, pour que les gens voient un peu de quoi on parle. Donc, ils parlent d'une éducation intégrale, polytechnique, rationnelle, émancipatrice et permanente.
Oui. Alors, on pourrait parler pendant des heures de tout ça, puis je vous renvoie au livre parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a des aspects de ça qui devraient, je pense, nous interpeller. D'abord, L'éducation. Les anarchistes, ce sont des gens au 19e siècle qui sont, dans une large mesure, c'est vaste le mouvement anarchiste, mais dans une large mesure, ce sont des gens qui sont des rationalistes, c'est-à-dire attachés au savoir et à la raison, et qui croient qu'une des fonctions de l'éducation, c'est la transmission de savoir et le développement de la rationalité. Alors ça va être très, très présent chez eux. Très présent jusqu'à un point qui est, je vous dirais, presque émouvant à constater. Moi, c'est une des choses qui m'a ému en travaillant là-dessus. Les anarchistes vont avoir un immense souci de ne pas... Quel mot vous mettriez, là? Quand on croit que l'éducation transmet des savoirs et qu'on veut rendre les gens autonomes par la transmission de savoir, qu'est-ce qu'on doit éviter? Ou on doit être particulièrement attentif? Un mot qu'on n'emploie plus jamais en éducation au Québec.
L'endoctrinement.
Ils ont l'immense souci de ne pas endoctriner les gens. Et ils vont écrire et dire des choses très émouvantes, genre « Nous sommes des adultes férocement convaincus de la justesse de nos idées. On se bat pour l'anarchisme, on se bat pour... » Mais comprenez notre pudeur quand il s'agit d'enfants. Comprenez notre pudeur quand on s'adresse à des enfants. On aimerait bien qu'une fois grands, ils pensent comme nous et ils mènent le même combat. Mais on ne veut pas les endoctriner. On ne veut pas leur imposer nos... Aujourd'hui, quand le ministère de l'Éducation convoque une réunion avec Grégory Charles, où il invite les gens d'affaires à venir, et ils dansent entre eux, puis ils s'en vont dans les écoles faire de l'initiation à l'entreprise économique, puis vanter les vertus des entreprises et des chefs d'entreprise, personne ne pense au mot endoctrinement. Personne ne pense plus que ce qui est en train de jouer là est grave. Vous voyez? Alors donc, il y a chez les anarchistes ce souci d'un enseignement rationnel. Il y a aussi un autre aspect qui me semble intéressant. On pourrait, comme je dis, il y a tellement de choses là-dedans qu'il va falloir arrêter puis couper à un moment donné, puis je me rends compte que je parle trop. Mais une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'ils ont l'intention de relier d'une manière neuve, originale, intéressante, le travail intellectuel et le travail manuel. Il faut se rappeler qu'on est au 19e siècle et que la coupure entre le monde de l'esprit puis le monde manuel est une coupure qui se reflète dans les faits en termes de répartition des biens sociaux, de prestige, de salaire, et ainsi de suite. Souvent, le système scolaire répartit les gens en disant « Ceux qui sont, dit-on, les plus doués, on va les sélectionner et leur permettre la poursuite de cette voie intellectuelle. Les autres, on les envoie à côté, ce qui semble être une voie de garage, une voie de garage, littéralement, vers le travail manuel. » Les anarchistes ont refusé cette division-là. Et ils ont tenté de créer, ils ont eu différents noms pour ça, l'école-atelier, l'éducation polytechnique. Mais ils ont tenté, d'abord, de rendre sa dignité au travail manuel, et ensuite de lier l'éducation intellectuelle et l'éducation manuelle. Et ils l'ont fait aussi avec le souci qui a toujours été présent chez eux. Et nous, aujourd'hui, qui nous posons la question du rapport de l'éducation avec l'emploi, avec le travail, c'est des thèmes sur lesquels on peut méditer encore. Ils ont eu le souci de faire en sorte que l'éducation fournisse aux gens des conditions de liberté par rapport au travail. C'est-à-dire, ils ont voulu que les gens apprennent plusieurs métiers. Ils ont voulu que les gens ne soient pas à la merci d'un seul employeur ou d'une seule circonstance économique. Ils ont compris, et je pense que c'est une leçon qu'on peut retenir et qu'on peut méditer, que l'éducation devait fournir aux gens des moyens par lesquels ils auraient une certaine liberté par rapport au travail qu'ils allaient faire. Donc, ce qui fait que les enfants et les adolescents formés dans les écoles anarchistes apprenaient quelques métiers, de telle sorte qu'ils étaient à la merci d'aucun employeur. Ou pas d'un seul, en tout cas. Voyez-vous? Intégrale aussi, évidemment, c'est une éducation qui se voulait à la fois intellectuelle, morale et physique. C'est un autre thème extrêmement important. Alors, le Robin dont j'ai parlé tantôt, Paul Robin était un scientifique de formation. Et c'est pour ça aussi que l'expérience de Sampuy est tellement riche pour nous aujourd'hui, parce que, comme tous ces scientifiques, n'est-ce pas, il prenait des notes sans arrêt. Alors, il n'arrêtait pas de tout codifier, de tout noter dans ses carnets. Et par exemple, il prenait des mesures des enfants, qu'il regardait ce qu'ils mangeaient. Alors, on a une documentation extrêmement importante sur Sampuy, qui est précieuse. Et dans Sampuy, comme chez les autres, il y avait un grand souci de l'éducation physique, c'est-à-dire de l'éducation du corps. Alors, Robin a porté ça, mais les autres anarchistes aussi ont porté ce souci-là. Donc. Alors, si vous permettez de conclure vite là-dessus, c'est une façon de concevoir et de penser l'éducation qui va devenir extrêmement influente par la suite. Hein. Beaucoup d'idées modernes, contemporaines en éducation vont se rattacher à ces types de courants-là. Et c'est aussi en même temps, à cause des caractères que je suis en train de vous décrire, quelque chose qui est singulier dans l'univers des pédagogies, puis même des pédagogies radicales ou progressistes de l'époque. Alors, ils sont originaux, voilà, ça comme ça.
C'est sûrement dans les premiers aussi à proposer la mixité. Mmh. C'est les garçons et les filles.
Effectivement, tout à fait. La proposition de la mixité est mise de l'avant dès le début chez eux, de la même manière qu'ils sont... le mot extrêmement critique serait un euphémisme de l'éducation religieuse.
Comme les anarchistes sont vraiment...
Un des slogans à l'époque où ils vont discuter longtemps dans les pages de leurs journaux, soit de la question de savoir si on peut finalement rentrer dans le système scolaire officiel puis y faire des choses. Il y a des partisans de ça, il y a des gens qui s'opposent à ça. Un des slogans à l'époque, c'était « Abat la catho, abat la laïque ».« Abat l'école privée catholique, abat l'école laïque, celle de l'État ».« Abat la catho, abat la laïque ». Bon.
Les anarchistes sont toujours évidemment critiques de l'autorité, mais comment ils ont réussi dans leurs expériences pédagogiques à limiter le rapport d'autorité de l'adulte envers l'enfant, mais aussi peut-être les enfants entre eux.
C'est...
Par exemple, tout ce qui est l'élément normalisateur dans l'éducation, par exemple la notation, la hiérarchisation par gramme.
C'est une bonne question, puis tellement vaste là, que je vais être obligé de limiter les réponses que je peux y donner, mais c'est une question centrale. Tu vois? Je pense même qu'à certains égards, quand on veut penser le rapport des anarchistes à l'éducation, ce que tu touches là, c'est peut-être la question philosophiquement centrale. Pourquoi? Parce que on a une doctrine politique qui est fondée sur le refus de l'autorité légitime. OK? On a à côté de ça une pratique humaine qui ne peut s'exercer sans autorité. Problème. OK? Comment on va faire? Qu'est-ce que ça va signifier éduquer lorsqu'on s'adresse à des jeunes enfants sans autorité? Alors, ou en tout cas, en n'ayant pas les effets néfastes que procure l'autorité, tout en exerçant le minimum d'autorité, peu importe sa source ou sa nature, qui exige le travail en question. Il y a plusieurs réponses à ça chez les anarchistes, encore une fois. Ils ne sont pas dogmatiques, puis il n'y a pas de point de vue uniforme. Puis je pense que c'est tout à leur honneur, ça, hein, parce que ces questions-là sont tellement complexes que si quelqu'un prétend avoir la réponse tout seul, il y a des bonnes chances qu'il se trompe. Tu vois? Une des sources de leur réponse, c'est d'en appeler au caractère, je dirais, neutre des savoirs. Alors, les anarchistes de cette époque-là sont, encore une fois, pour la plupart d'entre eux, des gens convaincus de la valeur du savoir. Okay? Le savoir est quelque chose de positif, et initier quelqu'un au savoir, c'est accomplir chez lui quelque chose qui est valable en soi. Aujourd'hui, avec certains courants intellectuels, on a de la misère avec cette idée-là. Elle est moins évidente, en tout cas, elle est moins facilement acceptée. Il y a ça chez les anarchistes. Il y a cette confiance au caractère positif du savoir dans lequel on initie les gens. Or, le savoir, pense-t-il, est neutre. Quand je juge que le travail est bien fait ou mal fait en mathématiques, c'est pas la personne que je juge, c'est un standard, c'est la personne que je juge, mais c'est son travail sur un standard extérieur, universel. Et c'est, je m'impose pas comme autorité arbitraire face à lui. Tu comprends? Autrement dit, les formes de savoir dans lesquelles j'initie la personne portent des critères d'évaluation qui sont indépendants de moi ou de lui. Il y a cette neutralité-là à laquelle les anarchistes vont en appeler. Il y a aussi, et là-dessus ils sont riches aussi, les anarchistes sont des héritiers de Rousseau sur bien des plans d'éducation. Et étant des héritiers de Rousseau, ce sont des gens qui ont une horreur du savoir, qui savent ce que ça peut produire. Hein. Rousseau nous a montré ça. Abuser d'autorité en éducation, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez faire des gens qui sont soumis et qui disent oui à tout, sans intérêt, ils ne sont plus autonomes. Ou vous allez faire des gens qui sont tellement révoltés qu'ils disent non à tout. Puis là, ils sont même plus capables de reconnaître ce qui peut être bon ou mauvais parfois. Donc, il faut essayer d'utiliser une façon... faut imaginer une façon d'inventer un rapport à l'autorité dans l'éducation qui permette d'éviter ces écueils-là. Une des choses qu'ils vont faire, c'est de construire un monde scolaire, un univers scolaire respectueux de l'enfant. Les anarchistes vont être là-dessus des partisans de l'idée qu'on se moralise, on se construit moralement dans un univers où est pratiqué ce que les gens pensent valable. Autrement dit, on n'enseignera pas la moralité, mais on va organiser des circonstances de vie, des modes de vie où par l'exemple, les gens vont développer, par émulation, les caractéristiques qu'on souhaite voir advenir. Donc, il y a ça chez eux. Puis, il y a aussi un autre truc un peu plus technique ou difficile. C'est peut-être le texte le plus philosophiquement abstrait, celui-là, mais c'est celui de Stirner. Tu vois, Max Stirner, que certains d'entre vous connaissent sûrement, et autour, l'anarchiste individualiste, le fondateur de l'anarchiste individualiste, l'auteur de L'unique et sa propriété. Bien, peu de gens savent que, à part L'unique et sa propriété, Stirner a écrit que petits articles dans des revues, puis notamment une série de 4 articles dans la Gazette Rhénane, excusez-moi, qui était alors dirigée par un certain Karl Marx. Et Marx dirigeait la Gazette Rhénane, et Stirner lui a envoyé des textes sur le faux principe de notre éducation. Et là, c'est intéressant parce qu'il prend cette question-là de l'autorité. Et comment il apprend? Je vais vous raconter parce que ça nous ressemble à nous pas mal aujourd'hui, ça. Il dit, en éducation, en ce moment, on a une tendance qui dit, il faut tout centrer sur l'enfant. Du moment que l'enfant est heureux, paf, les savoirs, c'est pas important. De l'autre côté, tu as une tendance qui dit ce sont les savoirs hérités du passé et prestigieux qui comptent en éducation, et il faut faire en sorte que les gens s'initient à ce haut savoir-là. Mais ils ont vu une époque où ces savoirs-là ont de moins en moins de prestige. Alors, il dit, les deux voies, là, sont irrémédiablement irréconciliables, tu vois. Et il va falloir, pour surmonter ce conflit-là, entre une école ou une éducation qui adapte les gens à leur environnement immédiat, vous les connaissez aujourd'hui, ceux-là, hein? Puis une école qui dit, il faut inscrire les gens dans l'universel de la haute culture, mais les gens veulent pas, semble-t-il. Stirner dit, on peut pas réconcilier ça. On peut pas faire une réforme de l'éducation, on va essayer de viser deux en même temps. Bon. Ce qu'on doit faire, c'est accepter le conflit. C'est accepter le conflit avec les élèves. Il faut que les élèves inventent, à travers le conflit qu'on va avoir avec eux, leur propre rapport au savoir et le fassent leur. Alors, c'est une réflexion que je vous lance comme ça en la présentant de manière beaucoup trop rapide mais qui est extrêmement intéressante parce qu'elle concerne aussi le type de rapport à l'autorité qu'on peut entretenir en éducation. Et c'est une réflexion, M. Stirner, ça ne nous étonnera pas, qui a le mérite de ne pas évacuer la dimension conflictuelle du rapport pédagogique. Voilà ce que je voulais dire.
Puis, si on se remet aujourd'hui, tu l'as évoqué rapidement, tu as parlé de réforme et tout. Je sais que tu as une opinion, une haute estime des sciences de l'éducation et des réformes là, qui ont lieu actuellement au Québec. Qu'est-ce qu'on fait? Toi, par exemple, tu es prof d'université. Évidemment, là, on ne parle pas d'élèves, c'est des étudiants, c'est des gens qui sont déjà adultes, mais est-ce qu'il y a des moyens, tu parlais d'espace, de liberté dans des lieux?
Il y a une solution, ce serait de fermer les facultés de sciences de l'éducation, évidemment, mais je n'aurais pas beaucoup d'amateurs pour cette idée-là. Mais créer des espaces de liberté, ça reste évidemment une solution possible. Il y a des gens dans le monde de l'éducation, vous en connaissez, puis je ne donnerai pas d'exemple, il y a des gens à l'université, au primaire, au secondaire, au cégep, des gens qui travaillent et qui construisent des espaces de liberté, qui construisent la société de demain dans les institutions d'aujourd'hui. C'est évidemment une chose qui est possible à faire. Mais si on se fie à l'ensemble des expériences puis des idées qui sont évoquées dans le livre, là, c'est vaste ce qu'on peut faire, tu comprends? On peut fonder nos propres écoles. Il y en a qui l'ont fait dans le réseau des écoles alternatives qui ont été inspirées par des idées parfois assez semblables à ce qu'il y a là. On peut, à l'intérieur du système, faire un certain nombre de choses. On peut aussi, à mon avis, se battre sur le plan des idées parce qu'on a une tendance fâcheuse, tu vois, à oublier l'importance que peuvent avoir les idées. Récemment, je cherchais un texte de Keynes, puis quelqu'un me l'a retrouvé où c'était. C'est à la fin de la théorie générale. Keynes dit... C'est toujours il y a toujours des gens qui disent « Oh, c'est juste le philo, ça, puis c'est des idées de philosophe. » Mais il dit, ces gens-là se rendent pas compte que c'est crucialement important, parce que les gens qui disent ça, en général, ils sont à la merci d'une idée d'un philosophe il y a 2 siècles ou il y a 50 ans. Ce que pensent les penseurs de l'éducation en ce moment, pour le meilleur et pour le pire, c'est avec ça qu'on doit vivre. Et une des choses qu'on peut clarifier, ces gens-là nous aident à faire ça aussi, c'est ce qu'on attend de l'éducation. À quoi ça sert, l'éducation? Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas négligeable, ça, tu sais. Si, au Québec, au ministère de l'Éducation, dans les facultés d'éducation, chez les citoyens, si, par exemple, tout le monde avait une idée relativement claire du concept d'éducation, qui est un concept difficile puis contesté, hein, parce qu'on peut avoir des différences de point de vue là-dessus, personne aurait laissé échapper ce que je racontais tantôt avec le chanteur, le machin, là, pour le... Oui, Grégory Charles, sur l'endoctrinement. Personne n'aurait jamais lu ça, parce que tout le monde aurait d'emblée vu que c'est un risque d'endoctrinement tellement énorme, tu comprends? Alors, c'est important aussi de faire des choses, d'avoir des pratiques, de lancer des choses, mais c'est important d'avoir des idées claires sur ce qu'on veut de l'éducation, sur ce qu'on attend. Anna Arendt, qui a fini sa vie proto-anarchiste, comme tu sais, hein, c'est-à-dire très, très proche de l'anarchiste de conseil, finalement, elle avait compris. Anna Arendt disait quelque part, et je trouve ça magnifique, que sur la question de l'éducation, ce qui se décide, c'est jusqu'à quel point on aime nos enfants. Et c'est vrai. C'est ça qui joue.
Mais pourquoi, selon toi, dans les sciences d'éducation actuellement au Québec... Ces idées libertaires anarchistes sont oubliées? Est-ce que c'est simplement parce que ça passe à la trappe avec comme l'ensemble des théories anarchistes généralement qui sont oubliées en sciences politiques, en sociaux, de toute façon, ils sont oubliés partout? Ou il y a quelque chose de spécifique aux sciences d'éducation?
Je suis convaincu qu'il y a plein de gens ici qui ont étudié à l'université ou qui y sont en ce moment. Vous savez, si vous êtes dans certains domaines des humanités, tu vois, qu'en règle générale, tout le domaine de ce qu'on appellerait les fondements ou la réflexion philosophique ou l'histoire de la discipline, la clarification des concepts, sont en général des choses qui n'ont pas une place extrêmement importante. Alors ça, c'est une des réponses que je peux te donner à ta question, c'est-à-dire que, par exemple, en éducation, permettez que je prenne mon propre cas. Moi, je donne un cours de fondement de l'éducation, justement. Je donne des cours de fondement de l'éducation. Mais ce cours-là, là, quand j'ai commencé à le prendre il y a 10 ans, il était jugé tellement peu important qu'on donnait ça à des grands groupes de 150. Ce cours-là était le seul dans le bac qui valait 2 crédits. Pas 3, 2 crédits. Okay? Et moi, je peux dire, mes étudiants sont superbes parce qu'ils adorent mes cours, puis ils le répètent, puis ils le disent. Mais mes étudiants ont pétitionné pour que le cours passe à 3 crédits. C'est rare que ça arrive, ça. Les gens trouvent ça important quand on leur en parle. Mais l'institution valorise pas ce type de cours-là. Il y a donc un oubli théorique absolument fascinant, tu comprends? Aujourd'hui, tu peux être prof en sciences de l'éducation sans jamais avoir lu l'Émile de Rousseau. C'est fantastique, ça. Tu comprends? Sans jamais avoir lu La République de Platon, sans jamais avoir lu Douai attentivement, ça va pas ça. Il y a un problème. Il faut peut-être pas passer toute sa vie là-dedans, mais clarifier ces choses-là me semble absolument important. Mais une autre chose qui a joué, Francis, je croirais, honnêtement, c'est le fait que ces idées-là sont marquées du sceau noir, tu comprends? Et le sceau noir, il fait reculer les gens. Tu vois? C'est des anarchistes. Ah, il y a des anarchistes. C'est donc ça va pas. Donc, on a très peu fait connaître ces idées-là. On revient à notre point de départ de notre discussion, là, mais... Moi, j'ai voulu mettre certains textes là-dedans qui me semblaient absolument importants, mais dans certains cas, j'ai été obligé de les faire traduire par des gens, parce que c'était pas disponible en français, ou de les retrouver dans des obscurs fascicules publiés par des groupes anarchistes français en 1972. Tu vois. Les textes étaient difficilement accessibles, ce qui est quand même assez triste, tu vois, parce que il s'agit véritablement de textes importants. Puis une dernière chose aussi que je voulais dire, parce que je me rends compte que j'ai trop parlé, mais c'est que leur conception de l'éducation a voulu aussi se lier, je ne sais pas si ça t'a frappé, au syndicalisme. Alors, on voit ça chez Pelloutier, hein, c'est-à-dire on oublie, les anarchistes même oublient parfois la richesse de leur passé puis de leur histoire. Hein. Alors, le syndicalisme a été extrêmement fort en France puis en Europe, sous le nom, au début du siècle, sous le nom d'anarcho-syndicalisme. Ne jamais oublier ça, puis l'anarcho-syndicalisme. Et cet anarcho-syndicalisme-là, il est extrêmement vivant, vibrant, fort, impliqué dans la société. Et une des inventions de Pelloutier, qui est le principal théoricien de l'anarcho-syndicalisme, ce sont les bourses du travail. Et dans ces bourses du travail, on faisait de l'éducation. Alors, on organisait... Imaginez nos syndicats s'ils reprenaient cette idée-là aujourd'hui. Le but du syndicat n'est pas simplement de défendre les avantages de leurs membres ou d'aller à la pêche dans le cas du président. Le but du syndicat est de porter un projet de société différent et alternatif et de le faire connaître, de le faire progresser. De telle manière que vous n'êtes pas seulement appartenant à un syndicat qui défend les intérêts de votre corporation, vous êtes aussi membre d'une bourse du travail qui, dans un territoire donné, regroupe tous les membres de tous les syndicats. Et dans cette bourse de travail-là, il se fait bien des choses, y compris l'éducation. De l'entraide, de la solidarité, de l'éducation. Vous allez trouver là un musée du travail, des cours du soir. Vous allez trouver là tout ce qui contribue à faire en sorte que, comme disait Pelloutier, la formule est magnifique, l'ouvrier est la science de son malheur.
Voilà. J'aurais peut-être une dernière question qui fait écho justement à la question du syndicalisme, là, même si ça dévie un tout petit peu de la pédagogie comme telle. C'est un peu pour connaître ton point de vue sur... l'année dernière, il y a eu la plus grande grève étudiante de l'histoire du Québec. Il y a les profs aussi qui sont en moyenne de pression. Comment tu regardes ça?
Ben là, je dis aux étudiants, lâchez pas. J'étais très fier. Je pense que c'était un beau moment dans l'histoire récente. Je vais vous dire aussi, franchement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les étudiants qui se sont battus l'an passé portaient quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant de voir, tu vois. Du côté des profs, je suis moins sûr, tu vois. Mais du côté... Non, c'est vrai. Bien qu'il y ait des profs qui appuyaient les étudiants qui étaient sincères, c'était mon cas, mais j'ai beaucoup apprécié dans la dernière grève étudiante que cette grève-là a été une grève avec vision, tu comprends? A été une grève avec portée. A été une grève qui n'était pas une grève de strict ou même pas du tout de défense d'intérêts corporatifs, si on pense aux étudiants comme une corporation. Ce sont des gens qui allaient sur la place publique pour défendre des valeurs, pour défendre un projet de société. Ça, on l'a senti au Québec. Et c'est précieux, ça. C'est ce que faisaient les anarchistes aussi, tu vois. Et c'est ce qui manque au mouvement syndical en ce moment. C'est-à-dire, il manque une vision d'un modèle alternatif crédible, inspirant, qu'on peut proposer. Et je pense que penser l'éducation, c'est aussi penser ça. C'est penser à quel type de société on veut, dans quel type de monde on veut vivre, puis quelle sorte de valeur on veut promouvoir.
Je ne sais pas si y a des gens qui veulent poser des questions également, participer à l'éducation populaire.
Moi, je... En fait, c'est complexe, hein? Puis là, tu cites des gens que tu connais, puis moi, je pourrais en citer d'autres. Puis...
Oui. Que ce mouvement-là soit une reprise ou bien un espoir pour l'évolution des choses à venir.
Ça, en partie, ça dépend de nous aussi. Tu sais. Ça dépend de l'attitude qu'on aura face à ce mouvement-là. Ça dépend de ce qu'on... Et je ne veux pas entrer dans une discussion qui risque de tourner court où chacun invoquerait des événements ou des gens qu'on a connus. Je voudrais simplement peut-être apporter dans cette discussion-là l'idée que je trouve qu'on a une déplorable tendance à gauche, tu vois, à transformer une victoire en défaite aussitôt qu'on peut. Tu vois. Autrement dit, à déplorer et à refuser de reconnaître des avancées qui ont été faites. Alors évidemment, tu as tout à fait raison si tu dis que tout n'était pas parfait, ça n'a pas été une victoire complète, ça a des limites ce qui a été fait là. Mais quelque chose a été fait, et ce serait une grave erreur de refuser de le reconnaître, d'abord, hein, que cette chose-là a véritablement été faite. Comment disait l'écrivain américain qui parlait de ça, on soutire la victoire de la mâchoire de la défaite.
C'est...
Et, oui, peut-être, mais... Oui, mais dans le cas présent, je pense que ce qui est juste et raisonnable, c'est de reconnaître que quelque chose a été fait. Puis c'est ce sur quoi on peut bâtir, encore une fois. Hein. Ça nous donne une assise sur laquelle bâtir. Si on devait faire des critiques dans cette perspective-là, constructive dans cette perspective-là, j'aurais encore une fois tendance à dire que par où on pêche, mais là c'est le cas dans notre rapport au syndicalisme, dans notre rapport à l'éducation, dans notre rapport à l'économie, ceux qui ont lu certains de mes textes savent que c'est une vieille bébête à moi, ça, c'est qu'on manque de vision. C'est-à-dire qu'on n'a pas de modèle alternatif à proposer. Alors, autrement dit, et là, je pourrais pas en faire le reproche aux étudiants, parce que moi aussi, je fais partie de cet ensemble-là. Mais il y a guère, cherche autour, hein, des modèles alternatifs d'éducation, des visions de l'éducation crédibles, engageantes, dans lesquelles les gens pourraient s'engager. Ben, il n'y en a pas des tonnes. Et cherche autour de toi des modèles d'action syndicale du même genre, t'en trouveras pas beaucoup. Et cherche autour de toi, encore pire, des modèles économiques crédibles. C'est comme l'économie participative, t'en as pas des tonnes. T'sais.
Attends, il y a quelqu'un derrière toi. Hein?
Oui.
Je pense que dans le plus à la barre, vous avez un article qui critiquait l'approche cognitiviste en éducation.
J'ai fait un article qui critiquait l'approche constructiviste en éducation. Oui. Oui, c'est ça. Oui.
Puis ben, c'est ça, j'ai pas compris la
chose. Ah, ben, je m'excuse.
Pouvez-vous expliquer voyons dans les termes.
Aïe aïe. D'abord, je trouve ça extrêmement simple, t'avoue ça, parce que c'est pas simple à comprendre, tu vois. J'ai fait de mon mieux, puis de toute évidence, j'ai pas réussi, dans ton cas, à faire assez bien, c'est pas. Puis c'est sûrement de ma faute aussi. Mais il reste que c'est des idées assez complexes, tu vois. Je vais essayer de le mettre en termes que tu puisses comprendre, peut-être. Je vais essayer. Il s'est installé depuis une vingtaine d'années en éducation en Occident, c'est pas rien que chez nous, une espèce de vision de l'éducation, et là c'est une vision psychologique de l'éducation. C'est-à-dire, tu sais, pour penser l'éducation, il faut penser ce qu'on transmet, le contexte sociopolitique de la transmission, puis le contexte psychologique, pédagogique, psychopédagogique de cette transmission-là. Pour toutes sortes de raisons dans lesquelles je ne pourrais pas rentrer, là, mais il s'est installé en Occident depuis 15 à 20 ans l'idée que c'est impossible de transmettre. Okay? Et que les gens doivent reconstruire par eux-mêmes tout ce qu'ils vont apprendre. La thèse en question, c'est qu'on ne peut pas transmettre. C'est impossible de transmettre des connaissances. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre un environnement où quelqu'un va construire son propre savoir. Et maintenant, ça, c'est le premier aspect. Tu me suis jusque-là? Couple ça avec une deuxième idée. Il n'y a pas de savoir. Il n'y a que des opinions. Que devient l'éducation à ce moment-là? La manière par laquelle chacun se construit son opinion. Toutes les opinions se valent. C'est ça le drame. Est-ce que tu me suis? C'est un mélange de conceptions psychopédagogiques extrêmement étranges, parce que c'est ce que je rappelais dans l'article, c'est que les recherches montrent que ça marche très bien de transmettre pour un grand nombre de choses, notamment pour les savoirs de base. Ouais. Alors c'est une conception qui est falsifiée par les recherches empiriques, falsifiée par la philosophie, falsifiée par les recherches à long terme, la plus célèbre étant l'expérience Follow Through aux États-Unis là, que j'évoquais. Mais ça, c'est couplé avec un poison terrible qui est le relativisme postmoderne. Alors, les enfants construisent leur savoir, tous leurs savoirs sont bons. C'est ça le drame. Est-ce que c'était pas pire, là?
Oui.
Non, certains anarchistes, oui, c'est ça, oui. Oui. Non, ce que j'ai dit, regarde, j'ai dit que, je vais le redire mieux, tu vois. OK. Dans la relation pédagogique, dans la relation pédagogique est impliquée une part d'autorité. Ça va? Mais, en tant qu'anarchiste, on se méfie de l'autorité, on se méfie de ses effets néfastes. La question qui m'était posée, c'est comment les anarchistes ont pensé ça, puis comment ils ont résolu ça en pratique. Alors, je disais qu'il y avait plusieurs façons, j'en ai nommé au moins 3-4. Mais une de celles que j'ai nommées aussi, c'est d'en appeler aux normes universelles des savoirs eux-mêmes. Est-ce que tu me suis? Par exemple, si l'enseignement porte sur les mathématiques, par exemple, c'est pas moi qui exerce une autorité arbitraire sur toi quand je te dis que tu te trompes en disant 2 et 2, 5. J'en appelle au savoir lui-même. Tu me suis? Ben, voilà une partie de la réponse pour les anarchistes.
Oui,
je dis
en mathématiques, ça fonctionne. Oui. Dans
La question est complexe, hein, puis tu comprendras pourquoi, pas fou, le gars, il a pris un exemple en maths. J'ai pas pris un exemple dans l'histoire de la France coloniale, tu vois. J'ai pas pris un exemple par lequel certains d'entre vous savent que j'ai été élevé en Afrique, tu vois. Eh bien, moi, quand j'étais en Afrique, j'étais le seul blanc de ma classe, canadien, on dit à l'époque. Tous mes collègues en classe étaient des noirs. Nos professeurs étaient des instituts français et on apprenait tous nos ancêtres les Gaulois, tu vois. Ce qui était un peu bizarre, tu vois. Mais je suis sûr que le prof aurait dit, j'en appelle à une norme universelle, celle de l'histoire transcendante, tu vois. Mais t'as compris le problème. T'as compris la solution puis tu vois le problème, je suis sûr.
Mais en termes d'évaluation, est-ce que... Je sais que tu donnes des exemples, par exemple, il n'y a pas, par exemple, de notes, de bulletins...
Ça aussi, ça a été vaste, tu vois. Mais il y a eu un grand nombre de pratiques libertaires où il n'y avait carrément pas de bulletin ou de notes. Oui. Est-ce que ça vous dérange qu'on arrête là puis que...
Il y avait au moins une autre question.
Je voulais juste ramener, puisqu'on a 20 ans dans le système d'éducation, mais les médias ont beaucoup parlé l'an dernier avant qu'il y ait d'autres luttes à mener de tout cet aspect de la réforme. Je ne sais pas jusqu'à quel point les médias ont bien mis en image le débat, mais d'un côté, d'évaluation de l'enfant qui était versus l'ensemble de la classe vers un système où l'enfant est évalué par rapport à son propre progrès. D'un côté, il y avait des syndicats qui disaient c'est de la foutaise, nous on ne veut pas appliquer cette réforme. Il y avait des parents qui se plaignaient de ne plus être capables de se retrouver dans un bulletin. C'est quoi tes perspectives là-dessus? L'idée ne me semblait pas si bien résolue que ça.
Le problème avec les problèmes avec la réforme en ce moment, il faut remonter au fondement de cette réforme-là. C'est-à-dire que si la réforme passe telle qu'elle est, encore une fois aussi, il faut bien se rappeler que rien garantit que ce qui est inscrit dans les intentions va être vraiment ce qu'on va retrouver dans les textes, va être vraiment ce qu'on va retrouver dans les classes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des... Tu as compris que moi, je suis opposé à la perspective constructiviste qui est utilisée en réforme. Je suis opposé aussi au relativisme postmoderniste sur les savoirs qui est greffé à ça. Maintenant, rien garantit que c'est vraiment ce qu'on va retrouver tel quel dans les programmes. Habituellement, c'est pas aussi grossier dans les programmes. Et rien garantit aussi que dans les classes, c'est ce qu'on va retrouver. Alors ça, c'est un des problèmes pour répondre au type de question que tu soulèves. C'est l'écart parfois considérable qu'il peut y avoir entre les intentions avouées sur le plan théorique, la traduction de ces intentions-là en politique publique, puis la traduction de ces politiques publiques-là dans les classes, où les profs ont malgré tout une certaine marge de manœuvre. C'est comme par exemple, en ce moment, pour la réforme, si on suit ce qui est en train de se passer, il y a un vaste mouvement de profs au secondaire qui, semble-t-il, promettent de refuser d'appliquer la réforme. On peut penser que ces gens-là, ont pris la décision que si elle passe, ils vont continuer à faire des choses comme ils les faisaient avant, sans trop se préoccuper. Maintenant, le problème de l'évaluation dont tu parlais, c'est ça. C'est que si jamais ce qui est, en théorie, est littéralement appliqué, tu ne peux plus juger de rien. Alors, il y a un arbitraire plus énorme encore que celui d'évaluer à une évaluation où il n'y a plus de savoir, tu comprends? Où il n'y a plus de connaissance. C'est ça qui trouble les critiques de la réforme. Et pour aller jusqu'au bout de ma pensée, mais je ne veux pas trop discuter de ça parce qu'on n'en finirait plus. Ce qui est troublant aussi, c'est qu'il y a un très bon argumentaire, tu vois, très très bon argumentaire, qui provient de la sociologie, qui provient de la philo, et qui provient des recherches empiriques importantes qui ont été faites et crédibles, OK, à l'effet que les plus frappés par ces pratiques-là sont les plus démunis. C'est-à-dire ce sont les plus démunis culturellement, et habituellement, ça veut dire aussi économiquement. Autrement dit, les enfants des milieux défavorisés. Pour une raison qui est assez simple à comprendre, c'est parce que si l'école ne te donne plus ce qu'elle doit te donner, tu viens d'un milieu favorisé, ou tu vas le chercher ailleurs. Vous suivez ce que je suis en train de raconter? Si l'école t'apprend plus à lire, si à la fin de la première année, tu ne sais pas lire, si tes parents ont des sous, qui appartiennent à une classe sociale où les livres sont importants, puis il y en a plein à la maison. Ils savent que c'est une calamité. Alors, ils vont faire appel à des profs privés, ils vont tout mettre en œuvre pour que tu apprennes à lire. Dans le cas des familles moins favorisées, ce savoir-là n'est pas présent et ce réflexe-là n'est pas présent. Ce qui fait que, comme je te dis, terriblement, tu vois, le refus supposément progressiste de certaines formes d'évaluation, lorsqu'il prend place dans un contexte où on a nié les savoirs, est surtout dommageable aux gens que les progressistes veulent surtout aider. C'est une conclusion assez terrible.
Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être, pendant que je peux encore retenir Normand? Ouais.
Vas-y. J'irai vous voir après. Vas-y.
Je suis pas sûre que les professeurs qui refusent la réforme scolaire la refusent pour la même raison que toi, tu la refuses.
Non, ça c'est sûr.
Ce que j'ai l'impression, bon, moi j'ai participé à la création d'une école alternative quand ma fille était petite, puis tous les principes qu'on mettait de l'avant, que je retrouve dans
certains.
Les façons théoriques, dans ce que tu viens de dire.
Certains d'entre eux.
En tout, c'est ça. Donc, oui. Moi, j'ai l'impression que la réforme scolaire a été beaucoup inspirée des pratiques dans les écoles alternatives d'éducation centrée sur le développement de l'enfant. Et que ça ne veut pas dire, parce qu'il y en a eu peut-être des expériences dans l'éducation où on disait, OK, on va mettre l'environnement, puis là, on va attendre qu'il se passe de quoi. Tu sais, que, comme la vieille joke qu'il y avait sur l'ONF à l'époque, on disait, tu mettais une pelure de banane, puis tu attendais que. Tu vas attendre longtemps que quelqu'un marche pour la pelure de banane pour qu'il apprenne quelque chose. Mais par contre, j'ai l'impression que ce que la réforme apporte, c'est une réponse à la question des enfants, des étudiants qui disent à quoi ça sert ça dans la vie. Alors, c'est peut-être pas d'après moi ce que j'en ai compris de la réforme, mais je trouve ça extrêmement positif. La création de milieux d'apprentissage reliés à des activités concrètes, parce que là, tu dis, OK, ça, c'est relié à des apprentissages réels, à des besoins réels, et non pas attendre que l'enfant apprenne de quoi je la vois pas.
Non. Il y a ce danger-là inscrit dans la réforme. Il y a ce danger-là de pratiques pédagogiques, surtout dans le contexte où ils sont formulés, là, comme je le disais tantôt, le relativiste globalement hostile au savoir, il y a ce danger-là. Mais la question est complexe que tu soulèves. Et, laissez-moi vous rappeler un résultat de recherche qui existe et qui est important là-dessus. En éducation, il y a une recherche qui domine toutes les autres. Il y a une recherche empirique qui a été faite qui a duré le plus longtemps que toutes les recherches empiriques, qui a porté sur un nombre plus important d'enfants. Je parle des apprentissages au primaire, les apprentissages de base au primaire, qui a duré plus longtemps que toutes les autres et qui a été faite par des indépendants de la recherche en question. Autrement dit, les gens qui ont évalué les résultats n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient des intérêts dans la recherche en question. Tu vois? Et étrangement, sur des variables, même sur des variables comme tu disais tantôt, à quoi ça sert, quel intérêt ça présente. Eh bien, même sur des variables comme l'intérêt qu'on trouve à ce qu'on fait, à l'école, l'estime de soi qui était mesurée par toutes sortes de variables, c'était des méthodes qui reposaient sur la transmission systématique du savoir qui obtenait des meilleurs résultats. Et chose encore plus troublante dans le cas de cette recherche-là, elle s'appelle Follow Through, je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, ces effets-là étaient visibles partout et... certains trouveront ça étonnant, mais pas moi, était particulièrement visible dans les milieux défavorisés, dans les ghettos noirs où la recherche était menée. Autrement dit, contrairement à ce que parfois on pense, il se peut que, à tout le moins pour certains apprentissages, soit le fait de procéder d'une manière plus systématique soit ce qui génère le plaisir d'apprendre chez celui qui apprend. Il y a, autrement dit, un plaisir intrinsèque à apprendre certaines choses. Soit. Maintenant, ceci dit... tout ça est tellement vaste et complexe là, que je voudrais pas en parler en risquant de dire des choses trop simplistes.
Est-ce que tu parles d'expérience de Spring Hill?
L'expérience de Spring Hill?
Summer Hill.
C'est Summer Hill. Ce que j'en pense, je vais vous dire, je suis en train de me demander s'il va être dans le deuxième tome. Si je vais l'anthologiser dans le deuxième tome, tu vois. Ah, c'est Summer Hill, c'est l'école de... Ouais, c'est l'école de Neil, là. Alexander Sumner Mill, Neil. Ça se pourrait que ce soit dans le deuxième tome.
Mais peut-être justement pour terminer, peut-être un deux mots sur le deuxième volume qui...
Le premier volume, couvre une période extrêmement riche. Tu comprends? Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, puis beaucoup de théoriciens qui sont apparus, beaucoup d'idées importantes qui sont mises de l'avant. Vous le savez, hein, pour le mouvement anarchiste, puis pour beaucoup de groupes progressistes, là, la guerre de 14-18 marque une coupure importante. Tu vois, beaucoup de choses s'éteignent ou s'ils ne s'éteignent pas, en tout cas, ils disparaissent globalement. Hein, ils se reculent dans l'arrière-fond. Après 1918, il y a encore des expériences qui sont menées, qui sont, comme c'est le cas avec l'anarchiste, des fois moins directement libertaires, ou se réclament moins directement de l'anarchisme. Les expériences pédagogiques libertaires vont être proto-anarchistes, ou s'inspirer, ou compagnons de route des anarchistes. Il y en a un certain nombre. Puis après ça, à partir des années 60, je vous dirais, il commence à y avoir du monde qui mène des expériences et font des choses. Alors, par exemple, Paul Goodman, que vous connaissez peut-être, lui va sûrement être dans l'anthologie. Certains textes de Bertrand Russell vont être sûrement dans l'anthologie. D'autres encore, jusqu'à, probablement, ça va se clore sur Chomsky, tu vois, qui a beaucoup écrit sur l'éducation, mine de rien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a au moins 2-3 livres là, qui sont parus au cours des dernières années, réunissant ces textes sur l'éducation. Et là, il y a des problématiques nouvelles et différentes de celles qu'on a vues là. Notamment la place de l'université dans notre société.
Ben, je te remercie beaucoup. Comme on l'a dit, normalement, on reste peut-être pas assis, mais en tout cas disponible.
Non, je vais
bien rester accroché après son verre, vous voyez. Le petit cours d'autodéfense.
Écoutez, vous avez vu, j'imagine, le petit cours d'autodéfense. C'est vraiment un travail collectif, ce petit cours-là. C'est toujours la même chose. Je l'ai dit souvent, ça, quand je fais des livres. Hein. Tu te prends un livre, c'est marqué le nom de l'auteur dessus. Mais en fait, c'est plus ou moins vrai que ça. C'est bon. Le livre, j'ai écrit des textes, mais Charb a fait les dessins. Ils sont magnifiques. L'équipe de Luxe, là, ils sont là. Vous pouvez leur parler. Vous avez des idées de livres, allez les voir. C'est des gens géniaux. Moi, quand j'ai envoyé à Sébastien ce livre-là, s'il y en a qui l'ont lu, vous pouvez soupçonner ça, là. J'avais mes textes, puis des encadrés, puis des tableaux, puis des graphiques, puis des dessins. J'ai envoyé ça, puis j'avais de la peine pour lui. Je disais, pauvre gars, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Et ils ont fait un beau livre, malgré tout. Hein. Puis tous ceux qui ont travaillé chez Luxe à l'ouvrage l'ont fait. Puis je lui ai écrit celui-là, contrairement à d'autres livres que j'ai faits. Je voulais qu'il rejoigne le monde, puis je suis très content parce que ça se produit. Là. Plein de gens le lisent, puis plein de gens m'en parlent, puis j'arrête pas de refuser les entrevues. Puis voilà. Ah, c'est ça. C'est un petit livre amusant. Je pense que si vous le lisez, vous risquez de rigoler un petit peu à quelques endroits.
Merci, messieurs. Je lavais le chapeau ce soir de l'intervieweur, mais il y a également d'autres chapeaux, dont celui-ci, d'auteur, quoi. Alors, je vous invite à venir rencontrer ces messieurs. Puis à prendre
merci beaucoup, Francis.
Puis la soirée est dédiée à Jéricho, dont c'était la première participation, et Jéricho a 2 mois.
Ah oui.
'Cet entretien a eu lieu la semaine dernière à la librairie L'Écume des Jours. C'était le lancement du livre de Normand Baillargeon, Éducation et liberté. Ceux qui le veulent peuvent se le procurer à la librairie L'Écume des Jours. C'est un beau petit coin sur la rue Saint-Viateur, au coin de l'Esplanade. C'est le 125 rue Saint-Viateur. Une librairie de quartier, comme il se doit. Ce livre vient de à peu près 400 pages, vient de paraître chez Lux Éditeur. Il contient des textes d'auteurs anarchistes très importants, de première ligne, William Godwin, Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michel Bakounine, Pierre Kropotkine, Sébastien Faure, Paul Robin, Fernand Pelloutier, Francisco Ferrer, ainsi qu'une importante introduction de l'auteur, Normand Baillargeon. Merci de tous ceux qui ont collaboré et de vous, les auditeurs, d'être restés à l'écoute.